En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. » Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Mais maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dimanche prochain, dimanche des rameaux, nous entendrons la passion du Christ. Et nous l'accueillerons comme le roi d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes préparés à ces événements que le Christ annonce dans sa mort, dans sa crucifixion. Car lorsque Jésus dit qu'il va être élevé de terre, cela signifie bien pour ceux qui l'écoutent qu'il va être porté sur un instrument de supplice qui se trouve élevé. Et les Juifs connaissaient bien cet instrument que l'envahisseur romain utilisait pour les esclaves, pour les condamner à mort. Ainsi, les Juifs sont troublés, car cela fait 1700 ans pour eux, au moment où ils entendent Jésus, qu'ils attendent d'une manière toute particulière le Sauveur, celui qui va les délivrer, celui qui va les rendre heureux. Et comme cela fait près de 100 ans qu'ils sont sous l'occupation des soldats romains et de l'empereur romain, eh bien, leur cœur est encore plus attentif et impatient d'avoir cette libération. Or, Jésus, depuis qu'il s'est révélé, n'a pas pris le pouvoir. Il est pourtant le descendant du roi David, qui, 1000 ans avant, avait pacifié le royaume d'Israël Mais ensuite, par des jalousies successives, ce royaume avait été divisé. Sa tribu de Juda et la tribu de Benjamin l'avaient suivi. Il y avait 10 autres tribus qui avaient suivi un autre roi. Et cette division avait blessé ce peuple qui devait se rendre à Jérusalem pour offrir l'agneau pascal. Tous les ans, il se rappelait d'être sorti du pays d'Égypte avec peine, parce qu'ils étaient persécutés, parce que leurs enfants étaient tués par le Pharaon, et que dans cette nuit de Pâques, ils s'étaient enfuis avec le sacrifice d'un petit agneau d'un an, tout blanc. Cet agneau, c'était le Christ, c'était le Sauveur qui était figuré par ce petit agneau. Et voilà que ce peuple attend l'accomplissement d'une alliance, d'un accord qui a été fait avec Dieu. Si l'on reste fidèle, on aura le bonheur. Mais alors, nous, qu'est-ce que nous comprenons de cette alliance? Et qu'est-ce que nous comprenons de la religion, de notre lien avec Dieu? Qu'est-ce qu'il nous promet, Dieu? Il nous promet que la France ne sera jamais occupée par une armée étrangère. Il nous promet que nous allons toujours bien manger. Il nous promet que nous n'aurons jamais froid. Mais déjà aujourd'hui, cette promesse, elle n'est pas vraiment tenue. Il nous promet que nous ne serons jamais malades. Il nous promet que nous n'allons jamais vieillir. Mais tout cela est faux. Ce que Dieu nous promet, c'est le bonheur de notre cœur. Ce que Dieu nous promet, c'est que si nous ne n'imitons pas ceux qui sont égoïstes, ceux qui se moquent, ceux qui aiment la querelle, ceux qui aiment se mettre en avant, ceux qui aiment écraser les autres, ceux qui ne se soucient pas d'aider, d'être attentif, mais aussi dans la joie. On n'est pas toujours obligé d'être concentré au point de s'occuper de tous les pauvres de la planète, de tous ceux qui pleurent. Il y a des moments où nous sommes nous-mêmes joyeux, nous entraînons ceux qui sont joyeux pour profiter de la paix. Mais à d'autres moments, il y a des épreuves et nous devons avoir toute notre énergie, toute notre volonté pour aller aider ceux qui sont, en effet, dans la tristesse, ceux qui ont besoin de notre présence. Et alors, nous abandonnons notre petit bonheur, nous abandonnons ce qui nous fait plaisir pour se donner aux autres. Voilà ce qu'est la religion. Voilà ce que Dieu a fait lorsqu'il est venu. Voilà la mission du Fils. Il n'y a pas trois dieux. Dieu est amour. Dieu donne sa pensée et sa parole éternelle, son Verbe. Dieu donne son amour, son Esprit Saint. Dieu est le Tout-Puissant. Et lorsqu'il a donné son Verbe, il nous a dit qu'il avait donné tout lui-même, son propre Fils. Il est le Fils. Et il nous donne la parole qu'il a, puisqu'il est cette parole, la parole du Père. Et cette parole du Père, c'est la paix, c'est l'amour partagé et c'est l'espérance. Parce que la vie terrestre qu'il a faite est quand même bien compliquée. Encore une fois, nous avons un corps comme les animaux, nous avons les nécessités des animaux. Et dans le scoutisme, vous essayez de discerner, et les fondateurs ont essayé de vous dire combien dans la nature il y a des enseignements parmi tous ceux que vous pouvez voir et observer, pour que vous puissiez au moins avoir les vertus de certains animaux. Mais d'être futé, d'être courageux, d'être persévérant, c'est bien l'âme humaine qui est capable de grandes choses. Et si Dieu fait une alliance avec nous, nous nous lui faisons une promesse. Une promesse de fidélité, une promesse de ne pas nous décourager, une promesse de nous relever, une promesse d'être fidèle à la fidélité de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la Pâque qui va venir, c'est l'agneau de Dieu qui va se donner et qui va nous pardonner. Alors à nous de le faire, à nous de savoir reconnaître nos torts, à nous de savoir nous confesser. Et vous êtes à Paris, et à Paris il y a plein de confesseurs. Vous savez, il y a certaines villes où il y a de moins en moins de prêtres, parce que la charité se refroidit comme le temps d'aujourd'hui. Et il y a de moins en moins de générosité, il y a de plus en plus d'insouciance, mais ils ne sont jamais vraiment heureux à courir derrière ces plaisirs qui ne durent qu'un temps. Alors que si nous essayons de construire notre famille, de résister au péché, alors nous pourrons avancer et être fidèles à la promesse de Dieu. Mais il faut souffrir un peu. Ça demande des efforts de donner et de pardonner. Et dans cette paroisse Saint-Eugène, il y a l'ancienne coutume de voiler toutes les statues et même la croix pour le temps de la Passion. Parce qu'on se concentre uniquement sur la prière de Jésus. Tous ses amis disparaissent, se mettent de côté pour laisser la place à l'amour du Christ qui va porter sur ses épaules tous les péchés du monde. Et la croix sera dévoilée le Vendredi Saint, lorsque nous verrons l'agneau de Dieu donner sa vie jusqu'au matin de Pâques où il vivra, où il nous donnera sa propre vie. Voilà ce que vous allez faire aujourd'hui, car toutes les petites épreuves, tous les petits exercices que les adultes s'ingénient à vous faire passer, c'est pour que vous soyez des hommes, des femmes, pour que vous soyez debout devant Dieu et pour que vous apportiez la paix et la vérité au monde, que la Vierge Marie, qui est dans l'ombre du Christ, que Saint Joseph, que nous allons fêter demain, et qui est l'homme fidèle, nous accompagne dans cette fin de carême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.